Alors, nous allons laisser vraiment conduire par les chantres et nous allons suivre simplement pour adorer notre Dieu pendant un temps. Attire-moi à toi. Seigneur, merci pour ta présence dans ce lieu. Ma prière ce matin, c'est que tu ouvres les yeux de nos cœurs afin que nous puissions recevoir la révélation de ta présence au milieu de ton peuple, Seigneur. Seigneur, nous parlons beaucoup de l'existence des démons, nous parlons beaucoup de choses spirituelles, du monde des ténèbres. Mais il est temps, Seigneur, que tu ouvres nos yeux afin que nous puissions prendre conscience de l'existence des réalités spirituelles du monde de Dieu, pour que notre vie change, pour que notre conception du monde et du royaume de Dieu change, pour que nos mentalités changent, pour que nos comportements changent, pour que, Seigneur, oh Dieu, nos agissements, notre conduite, Seigneur, oh Dieu, change, pour que nous puissions nous atteler, Seigneur, oh Dieu, à faire descendre au milieu de nous, Seigneur, oh Dieu, l'atmosphère favorable, Seigneur, oh Dieu, à l'action des anges dans notre vie, dans notre maison, dans l'église et dans tout ce que nous faisons sur la terre. Oh Dieu Père, ce matin, ouvre l'entendement spirituel de tes enfants, Seigneur. Ouvre les yeux spirituels de tes enfants, Seigneur, afin que nous puissions comprendre, oh Dieu, la réalité du monde spirituel de Dieu. Alléluia, Jésus. Attire-moi à toi. Alléluia.
Ne me laisse pas.
Gloire à Jésus.
Je veux tout abandonner.
Si tu ne connais pas le chant, tu peux simplement être d'accord avec ses paroles. Alléluia.
Tu es mon désir. Je ne veux que toi.
Merci, Seigneur.
Dans tes bras, je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi.
Attire-moi à toi, Seigneur, chaque jour de ma vie, Seigneur.
Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer.
Dans tes bras, je suis rassuré.
Devant toi, Seigneur, je me sens rassuré.
Montre-moi la voie qui me ramène à toi.
Tu es tout pour moi, Seigneur.
Tu es tout pour moi.
Sans toi,
je ne peux vivre. Garde-moi près de toi.
Tu es tout pour moi, Seigneur.
Tu es tout pour moi.
Sans toi, Seigneur.
Sans toi,
attire-moi par ton amour, Seigneur.
Attire-moi à toi. Ne me laisse pas
t'abandonner.
Oui, je veux tout abandonner.
Restaurer notre
amitié.
Tu es mon désir.
Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Je suis rassuré.
Montre-moi la voie.
Montre-moi la voie qui me ramène à toi.
Alléluia, Shakabara.
Tu es tout.
Vivant d'Israël, garde-moi dans ta présence chaque jour de ma vie. Je désire demeurer dans tes parvis, dans le lieu très saint, là où tu te trouves, ô Dieu vivant d'Israël. Car là, dans tes parvis, là, dans ta présence, c'est là chez moi, c'est là où je me sens bien. Je désire ardemment, Seigneur, habiter ta maison. Je désire ardemment, Seigneur, adorer le nom de Dieu. Je désire ardemment comprendre la réalité du monde spirituel de Dieu et demeurer dans ta présence. Garde-moi près de toi, Seigneur. Alléluia. Amen. Jésus. Amen. Oui, il pourvoira. Il disposera. Alléluia. Les anges de Dieu se tiennent dans cet endroit. Au nord, au sud, à l'ouest et à l'est de ce lieu. Ils environnent ce lieu. Les anges de Dieu se tiennent dans cet endroit. À l'instant maintenant où nous adorons le Dieu vivant d'Israël, je déclare au nom du Seigneur que les anges de Dieu se tiennent dans cet endroit. Et à l'instant, tu ressens la présence de Dieu. Là où tu es debout, tu ressens la présence de Dieu. Tu ressens la présence d'un être spirituel, un être surnaturel. Les anges de Dieu sont là dans cet endroit. Dieu est présent dans ce lieu et il manifeste sa présence. Et tu peux prendre conscience de l'existence de la présence de Dieu alors que tu es dans ces parvis, alors que tu es dans ces lieux. Dieu est là. Et tu peux saisir ta délivrance. Tu peux saisir ton miracle. Tu peux saisir ta guérison. Tu peux saisir ta bénédiction. Tu peux saisir ta grâce. L'ange de Dieu se tient à tes côtés. Oh yes. Merci Seigneur pour ta présence. Nous pouvons nous rasseoir dans la présence de Dieu. Acclamons le roi des rois. Alléluia Jésus. Merci au groupe Louange. Vous pouvez vous rasseoir. Merci vraiment pour votre contribution à la présence des anges. Le thème de mon message, je disais, c'est le ministère des anges. J'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles dans le livre de Hébreux, chapitre 1. Nous allons lire le verset 14. Gloire à Jésus. Il est écrit, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Dans ce passage, Dieu nous parle des anges. Et la Bible nous révèle que les anges sont des esprits au service de ceux qui doivent hériter du salut. Le mot salut ne change pas de signification qu'on le traduise de l'hébreu au français ou du grec au français. Le mot salut signifie rachat. Le mot salut signifie rédemption. Le mot salut signifie guérison. Le mot salut signifie délivrance, bénédiction, prospérité, élévation. Alléluia. Dans le mot salut, on retrouve également la joie, la paix, la patience, le fruit de l'esprit. Dans le mot salut, on trouve également les dons de l'esprit. Le don de guérison, le don de la foi, le don de prier des miracles, le don de discerner des esprits, le don de prophétiser. Dans le mot salut, on trouve également les cinq ministères. Alléluia. Et la Bible déclare que, au travers du sacrifice que Jésus a accompli à la croix, Dieu a voulu réconcilier le monde avec Dieu et il a pleinement tout accompli en Christ Jésus au travers de l'œuvre de la croix. Et ici nous est révélé que lorsque Jésus est arrivé sur la terre, il a parlé du royaume de Dieu sur la terre. Et il fait la distinction entre le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Et par définition, le royaume de Dieu signifie la sphère ou l'environnement où règne la présence de Dieu et où sa volonté est respectée et accomplie. Alléluia. Et lorsque Dieu nous parle du royaume de Dieu sur la terre, il veut simplement parler de cette atmosphère spirituelle qu'il y a dans les lieux célestes, qu'il veut ramener sur la terre. Et la Bible déclare que lorsque dans le ciel, Dieu travaille, Dieu agit, Dieu vit, il vit dans une atmosphère d'anges. Et la Bible déclare que ces mêmes anges sont envoyés par Dieu sur la terre pour accomplir en notre faveur, à nous qui devons hériter le salut, un ministère. Alléluia. Un service. Et le salut, en fait, c'est simplement l'héritage du royaume de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, quand Dieu nous parle d'héritage, il fait seulement faire comprendre à son peuple que lorsque vous êtes né de nouveau, comme Jésus a dit à Nicodème, que si tu ne nais de nouveau, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Il veut simplement dire que lorsque tu nais de nouveau, ce que tu vois dans ta vie, c'est simplement la manifestation, la matérialisation visible du salut que Christ a accompli à la croix en ta faveur. Alléluia. Et la Bible déclare que tout nom parfait et toute grâce excellente nous est donnée par Dieu et nous vient du ciel. Et ce qui est remarquable ici, c'est qu'en fait, Dieu veut nous faire comprendre au travail du passage d'Hébreux chapitre 1, verset 14, que ces choses-là que Dieu a pour nous dans le ciel, accomplies pour nous au travers de la croix, mais qui sont restées dans le ciel, qui sont restées dans l'invisible, qui sont restées dans le monde spirituel, ces grâces, ces bénédictions, ce salut merveilleux, parfait, ne peut pas venir vers nous, ne peut pas descendre jusqu'à nous sur la terre si ce n'est par l'intervention des anges. C'est pourquoi, entre Dieu et l'homme, Dieu va mettre à la disposition de l'homme des esprits au service de l'homme pour accomplir en sa faveur le ministère du salut. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ce n'est pas merveilleux de comprendre cette vérité spirituelle? Et quand nous n'avons pas compris que rien ne peut se faire sur la terre sans l'intervention des anges et que Dieu ne descend pas du ciel. Et il y a dans la parole de Dieu, c'est vrai, des cas où Dieu descendu du ciel pour venir sur la terre lui-même en prenant un corps. On le verra tout à l'heure. Mais rares sont les cas où Dieu est descendu du ciel personnellement pour venir sur la terre pour régler des situations bien précises dans nos vies, dans nos familles ou encore dans l'église ou dans le monde entier, dans les nations. Toutes les fois que Dieu est intervenu sur la terre, il a fait par le canal de ses serviteurs, parmi lesquels les anges. Et donc, je me voudrais premièrement définir qui sont les anges. Alléluia. Pour ceux qui prennent des notes, gloire à Jésus. Les anges, en fait, ce sont des créatures célestes qui ont été créées par Dieu pour représenter la gloire de Dieu sur la terre et pour accomplir la volonté de Dieu. Pour représenter la gloire de Dieu non seulement sur la terre, mais également dans le ciel. Pour accomplir la volonté de Dieu non seulement sur la terre, mais également dans le ciel. En fait, pour établir le royaume de Dieu dans les cieux, et pour établir également le royaume de Dieu sur la terre. C'est pourquoi Jésus parle du royaume des cieux et du royaume de Dieu. C'est pourquoi il a dit que ton nom soit sanctifié. Que ta volonté soit faite dans le ciel comme elle est faite sur la terre. Et on peut distinguer plusieurs catégories d'anges. La Bible nous révèle premièrement que Dieu a créé trois tiers d'anges. Alors sur les trois tiers d'anges, on va distinguer des catégories. Vous allez voir, il y a ce qu'on appelle les anges, les chérubins. Les chérubins protecteurs. Ce sont des anges qui sont envoyés par Dieu sur la terre en notre faveur pour pouvoir assurer notre protection. La protection de nos vies, la protection de nos biens, la protection de nos maisons, la protection de nos familles, de nos enfants, la protection de l'église aussi, la protection de nos projets. Alléluia. Ce sont les chérubins. Alléluia. Et dans le livre d'Ésaïe chapitre 6, Ésaïe s'écrit, il dit: malheur à moi, je suis un homme dont les lèvres sont impures, mais ils ont vu le roi, l'Éternel des armées. L'Éternel déclare que, et l'un des séraphins vola vers moi, tenant en sa main une braise. Et la braise toucha les lèvres d'Esaïe, et il dit: ceci a touché tes lèvres, ton péché est effacé, ton iniquité est expiée. Alléluia. Et donc, les séraphins, ce sont des anges d'adoration. Ce sont les anges qui, dans le ciel, jour et nuit, adorent le Seigneur. Ce sont les anges qui interviennent sur la terre en faveur du peuple de Dieu pour en fait participer, du moins favoriser l'atmosphère de l'adoration, de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Ou encore quand tu pries, quand tu intercèdes, quand tu adores le Seigneur dans ta propre chambre. En fait, la présence de Dieu que tu ressens dans ta vie, elle est matérialisée, elle est manifestée par une atmosphère qui est composée des séraphins. Et la Bible nous révèle que les séraphins sont une catégorie d'anges très particulière. Parce que ce sont les anges qui gardent la présence de Dieu, qui sont garants de la présence et de la sainteté de Dieu. Alléluia. On le verra tout à l'heure, c'est des anges qui ne blaguent pas. Ils sont très sensibles. Et Dieu nous parle également du responsable de ces anges qui est en fait l'archange Lucifer à l'époque. Qui dirigeait la chorale du ciel. Et donc sur les trois tiers des anges qu'il y avait dans le ciel que Dieu avait créé, ce qui va se passer, c'est que Lucifer, astre brillant, revêtu de la gloire de Dieu, la Bible montre qu'il voulait s'asseoir au trône de Dieu et se comparer à Dieu et se considérer comme l'égal de Dieu. Et à cause de l'orgueil qui a été trouvé dans son cœur, Dieu l'a précipité sur la terre. Mais lorsqu'il vient sur la terre, la Bible nous montre qu'il n'est pas venu seul, parce que la queue de Lucifer a entraîné un tiers des anges. Ce qui fait qu'aujourd'hui dans le ciel, il reste deux tiers des anges qui sont au service de Dieu, au service des chrétiens, de ce qu'ils doivent hériter du salut. Et sur le tiers qui est descendu sur la terre, eh bien ils se sont organisés en royaume. C'est le royaume du diable sur la terre. Et ce tiers, nous en avons parlé déjà ici en long, en large, ce sont simplement les démons. On vous a parlé de la nature, l'origine des démons, la nature des démons, comment ils agissent, comment ils opèrent. On ne va pas revenir là-dessus. Alléluia. Mais ce qui va m'intéresser ce matin, en fait, ce sont les deux tiers qui sont restés dans le ciel. Et on voit également que dans les deux tiers qui sont restés, il y a ce qu'on appelle les anges messagers, qui sont effectivement sous le gouvernement de Gabriel, qui vient annoncer la nouvelle à Marie au sujet de la naissance de Jésus-Christ. Il dit, un fils t'est donné, un enfant t'est né, un fils t'est donné, et la domination entière repose sur ton épaule. Oh, comment je suis vierge, comment je vais faire, etc. Bon, vous connaissez l'histoire. Alléluia. Et l'ange Gabriel va également être envoyé par Dieu pour répondre à la prière et au jeûne de 21 jours de Daniel. Mais Dieu nous parle également d'une catégorie d'anges. Ce sont les anges guerriers, qui sont dirigés par l'archange Michaël, qui lui va intervenir également pour venir à la rescousse de Gabriel, qui a été intercepté par le prince de Perse et qui a intercepté la prière, l'exaucement de la prière de Daniel dans les lieux célestes. Et ces anges guerriers, ce sont les anges qui ont combattu toujours avec le peuple de Dieu depuis l'origine. Lorsque Moïse a fait des combats, des guerres, la Bible déclare que le premier combat que Moïse a mené, c'est le combat de Josué contre Amalek. Et pour ceux qui étaient là vendredi, vous aurez pu comprendre en fait toute la portée spirituelle de ce combat. C'est le combat en fait, Amalek ici veut dire la chair, les œuvres de la chair. Et le premier combat que Moïse va mener, ok, avant de pouvoir rentrer à Canaan, c'est contre Amalek, c'est contre la chair. C'était prophétique, c'était précurseur de quelque chose, parce que Dieu savait que le peuple d'Israël dans l'Égypte devait manifester la chair, devait manifester la rébellion, devait manifester toute forme de choses contre nature que Dieu ne voulait pas. Alors la première guerre que Dieu va livrer, c'est la guerre de l'esprit, de la chair contre l'esprit. Et on nous montre que lorsque Moïse était sur la montagne avec Aaron, lorsque Moïse avait les mains levées, Josué était vainqueur sur Amalek. Alléluia. Et lorsque Moïse avait les mains baissées, Amalek avait le dessus sur Josué. Alors Aaron va saisir, il va tenir les mains de Moïse et va les tenir levées, de sorte qu'en fait, nous puissions comprendre que lorsque nous sommes connectés en permanence avec le ciel, en communion avec le Seigneur, nous avons le dessus, nous avons la victoire sur Amalek, c'est-à-dire la chair. Alléluia. C'est le premier combat. Et dans ce combat, Dieu met à disposition son peuple pour combattre ses anges. Et dans toutes les guerres, dans tous les combats que vous allez voir dans l'Ancien Testament, que le peuple de Dieu a mené, Dieu envoie ses anges. Quand l'arche de l'Alliance marchait au milieu du peuple de Dieu, la Bible déclare que les séraphins de la gloire recouvraient le propitiatoire. Alléluia. Et ça, c'est le symbole de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Et quand vous lisez la parole de Dieu, il y a des moments où, lorsque la présence de Dieu se retirait du peuple de Dieu, les ennemis du peuple de Dieu étaient vainqueurs
sur le peuple de Dieu. La présence de Dieu, donc, en fait, nous garantit de la victoire sur nos ennemis. Alléluia. Donc, ce sont les anges guerriers sous l'égide de Michaël qui viennent combattre en notre faveur. Et ces anges sont à notre service dans les combats que nous menons contre les démons, contre les adversaires, contre nos ennemis, contre les sorciers, contre toute l'organisation satanique qu'on vous a montré ici. La Bible déclare que les anges, ces esprits guerriers, sont à notre service pour nous permettre de remporter des victoires. Et je pourrais citer une catégorie d'anges, plusieurs catégories d'anges. Mais ce que j'aimerais que vous puissiez comprendre, déjà, définissant les anges, c'est que dans toutes les situations auxquelles vous êtes confrontés, Dieu met à votre disposition des anges qui viennent à votre service. Quelle que soit la situation, ne limitez pas la puissance de Dieu. Ne dites pas qu'en fait, est-ce que dans ce domaine bien précis, les anges sont capables d'intervenir? Les anges sont capables d'intervenir dans tous les domaines. Dans le domaine du couple, les anges sont capables d'intervenir. Les anges de la procréation, ils sont capables d'intervenir dans le domaine du couple. Alléluia! Et dans le domaine des finances, les anges sont capables d'intervenir dans vos finances. Vous savez, hier, depuis deux jours, je cherchais ma carte bancaire. Je me disais, mais Seigneur, c'est pas possible. J'avais ma carte bancaire, elle est partie où? Et j'avais une image, quand je descendais de la voiture, je me souvenais que j'avais ramassé avec moi plusieurs choses. Et quelque chose, une image me revenait que là, il y a des choses qui étaient tombées. Et j'avais effectivement la conviction que ma carte bancaire était tombée à cet endroit. J'ai fouillé toute la maison. J'ai renversé les sacs. Et j'allais au bureau. J'ai tout fouillé. Il n'y avait rien. Alors, hier, j'avais un entretien ici avec une dame. Pour une cure d'âme. Mais j'étais perturbé. Et j'ai dit, Seigneur, ce n'est pas possible. Je ne peux pas te servir avec des inquiétudes. Il faut que je sois en paix pour pouvoir servir cette femme. J'ai dit, Seigneur. Et le Saint-Esprit me dit, remets tout en tes mains du Seigneur. Demande simplement au Seigneur de s'en occuper. Et là, je me suis mis, Seigneur, je dis, je te remets tout en tes mains. Si cette carte bancaire a disparu, Seigneur, toi-même, tu feras en sorte que la personne qui va la ramasser ne puisse même pas avoir accès. Et toi-même, tu vas veiller à ce que même si vraiment elle est tombée, personne ne puisse la ramasser. Mais Dieu a fait plus que ça. Alléluia. Pour montrer que Dieu s'occupe même de nos finances. Et après l'entretien, j'ai eu la paix, je suis rentré à la maison. Et puis j'étais comme ça, et le Saint-Esprit me dit, refouille encore le sac. Bien-aimé, le même sac que j'ai ouvert, que j'ai secoué. Il n'y avait rien. J'ai seulement mis la main comme ça. Rien qu'en mettant la main dans la poche comme ça. Je sors comme ça la carte bancaire. Alléluia! Et le Saint-Esprit me convainc qu'en fait, en réalité, on néglige Dieu. En fait, on imite Dieu autant pour moi. On néglige le fait que dans les mois d'état de notre existence, Dieu peut s'occuper de nous. Et que même si on a fait tomber quelque chose de très important, Dieu est capable de déléguer des anges pour aller ramasser cette chose-là et mettre ça dans notre maison. Alléluia! Dieu veille sur notre vie dans les moindres détails. Si tu es malade, Dieu est capable de mettre à ta disposition un ange pour pouvoir te guérir. Jésus sur la terre, aucun ne va le voir, n'a pas exercé son ministère de façon simple, de façon ordinaire. Il a dit à Nathanaël, il a dit, écoute, si je le veux même, d'ailleurs tu verras le Fils de l'homme, bientôt, debout là, et les anges de Dieu monter et descendre. C'est révélateur du fait que Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, il n'est pas venu, c'est vrai, en tant qu'homme, c'est vrai, il n'est pas venu tout seul. La Bible déclare qu'il y a quelqu'un qui a compris ça, qui a été très enseigné, c'est Pierre. Lorsqu'en fait, les Samaritains vont refuser de donner l'autel à Jésus, qu'est-ce que Pierre va dire? Il dit, mais écoute, dis seulement un mot, on commande au feu de descendre. À l'instant, l'armée du ciel fait descendre le feu et puis on en finit. Pierre était disciple de Jésus. Et Jésus les enseignait, donc Pierre était enseigné sur ses principes spirituels. Et il connaissait qu'en fait, Jésus-Christ n'était pas un homme simple et qu'à sa disposition, il y avait une cohorte, une légion d'anges. Et c'est pourquoi il même dit dans la parole de Dieu qu'en fait, Jésus était même capable de mettre cette légion d'anges en mouvement lorsqu'il était sur la croix pour que Dieu vienne le secourir, mais il ne l'a pas fait. Donc, tout le ministère que Jésus-Christ a exercé sur la terre, il n'a pas exercé tout seul. Il a exercé avec une légion d'anges, avec une légion d'anges, une armée céleste qui était à sa disposition et qui accomplissait à son service, en sa faveur, toute l'œuvre de Dieu qu'il accomplissait. Quand il s'agissait de guérison, il priait pour les gens, il touchait la personne et les anges guérisseurs, créateurs, réparateurs venaient pour toucher la personne qui était malade et la maladie partait et la guérison venait dans le corps et la personne retrouvait la bonne santé. Alléluia! Quand il s'agissait d'opérer une délivrance, les anges de Dieu marchaient avec lui. C'est pourquoi il s'est présenté devant un démon. Les démons voyaient la gloire de Dieu et commençaient à trembler. Mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce que tu es venu nous faire? Tu es venu pour nous perdre. Ils voyaient l'armée céleste accompagner Jésus. Parce qu'il est le roi. Il est le chef de l'armée de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Et l'armée du ciel accompagnait Jésus dans son ministère. Donc il n'y a pas un domaine dans lequel Dieu ne peut pas intervenir. Et Dieu ne peut pas envoyer les anges dans tous les domaines. Dans vos entreprises, dans vos projets, dans les situations de maladie, dans les situations de crise. Il y a des anges qui viennent pour consoler, pour reconforter, pour fortifier. Quand vous êtes faible, quand vous êtes malade, il y a des anges qui sont là pour fortifier. Dans le monde de lutte, pour apporter la bénédiction, comme Jacob, les anges qui sont là pour ouvrir les portes du ciel. Pour que les chaînes de Jacob s'établissent de la terre jusqu'au ciel, dont le sommet touchait le ciel éternel, afin que les anges de Dieu montent et descendent et que la porte des cieux soit ouverte sur votre vie et à l'endroit où vous trouvez. Alléluia. Dieu met à notre disposition des esprits à notre service. Je vais quand même vous parler de la nature de ces esprits. C'est qu'en fait, c'est bien de prendre conscience de ces choses. Mais si nous ne prenons pas conscience que ces êtres ont une nature et que ces êtres ont un fonctionnement, nous n'allons pas pouvoir bénéficier de tout l'héritage qui nous est réservé et dont leur service, leur ministère peut nous procurer. C'est pour ça que je vous invite à lire le livre des Hébreux chapitre 12 verset 1. Prenant conscience donc de l'existence de ces personnes, de ces anges, Dieu interpelle notre conscience sur le fait de notre comportement, de notre attitude vis-à-vis de ces êtres. Pour que ces êtres, ces personnes puissent bien nous servir, pour qu'ils puissent réellement être à notre service et pouvoir nous faire bénéficier de l'héritage du royaume de Dieu, du salut qui nous a été réservé. Voici la conduite que Dieu nous demande d'avoir. Il dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environné d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est réservée, qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Alléluia. Alléluia. Alors, les anges sont saints, comme Dieu est saint. Pourquoi? Parce que les anges revêtent la nature de Dieu. Les anges on porte en eux le nom de Dieu. J'aimerais vous inviter à prendre le livre de Exode, chapitre 23, verset 21. Exode, chapitre 23, verset 21. On va lire à partir du verset 20 pour bien comprendre le contexte. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Alléluia. Quel est le nom de l'Éternel qui est en lui? Quel est le nom de l'Éternel qui est dans les anges? Dieu, trois fois saint. Alléluia. Voici le nom d'Éternel qui est dans les anges. Parce que les anges revêtent la nature de Dieu. Le nom de Dieu veut dire son identité, veut dire sa personnalité, veut dire sa nature. La personne de Dieu est en eux. En fait, lorsque les anges sont à notre service, ce qu'ils attendent de nous, c'est que nous puissions être en accord avec la nature de la sainteté de Dieu pour pouvoir agir en notre faveur. Voilà pourquoi il déclare que nous devons rejeter tout péché qui nous enveloppe si facilement. Parce que nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Parce que les anges ne sont pas comme Jésus. Jésus pardonne nos péchés. Il plaide à notre faveur, il est notre avocat. Mais les anges ne comprennent pas ces choses. La Bible déclare que les anges ont désiré plonger leur regard dans le mystère du salut que Dieu a accordé à un homme pécheur comme nous. Il a tellement aimé cet homme qu'il a envoyé son fils unique qui est venu, qui est mort sur la croix pour nous. Les anges ne comprennent pas ça. Parce que dans le ciel, les anges, jour et nuit, ils vivent dans la sainteté de façon permanente. Ils ne connaissent pas le péché. Ils vivent dans l'obéissance, dans la soumission. Et ils sont parfaits. Ils sont dans la nature divine. Et même Dieu lui-même, qui est trois fois saint, ne comprend pas pourquoi l'homme pêche. Alors il a besoin d'un interprète. C'est Jésus qui se fait l'interprète de Dieu pour expliquer, voilà pourquoi Jésus est venu sur la terre, pour revêtir la nature de l'homme, pour être tenté par le diable et en toute chose comme l'homme, et pouvoir subir ce que l'homme subit, voir le poids du péché sur le corps de l'être humain, pour pouvoir expliquer à Dieu qu'en fait, voici ce qui se passe. Quand il a fait ça, voici le processus qui s'est passé. Voilà pourquoi il est arrivé là. En ce moment-là, Dieu comprend et Dieu peut pardonner. Mais Dieu, il est trois fois saint. Il ne comprend pas pourquoi nous péchons. Et les anges sont comme Dieu. Ils ne comprennent pas pourquoi nous péchons. Et c'est pourquoi il dit, fais attention, tiens-toi en garde. Parce que lui, il ne pardonnera pas vos péchés. Donc, cela nous révèle la sensibilité de la nature des anges. Ils sont très sensibles. Le moindre péché les fait fuir. Voilà pourquoi il déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le mot gloire ici signifie ange en grec. Et traduit par ange. Parce que les anges sont appelés les étoiles, les astres brillants. Ils sont également appelés des vents, et également des messagers, ou encore l'armée céleste, mais ils sont encore appelés des étoiles brillantes du matin. Et Jésus-Christ lui-même, il est l'étoile brillante du matin. Ils sont astres de lumière. Alléluia. Et leur sensibilité est telle que lorsque nous prenons pas garde au contact de ces anges, soit ils peuvent être choqués, scandalisés, attristés, soit ils peuvent s'éloigner de nous et fuir. Et la Bible déclare que pourtant ce sont ces esprits-là que Dieu a envoyés sur la terre pour faire descendre la bénédiction spirituelle qu'il a pourvue pour nous par l'œuvre de la croix sur nos vies, afin que nous puissions en bénéficier. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? La Bible déclare que ce sont également des compagnons pour nous. Dans Apocalypse chapitre 19, verset 10, on va lire ça ensemble. Ce sont des compagnons de service. Apocalypse chapitre 19, verset 10. C'est en fait la vision que Jean va avoir, l'apôtre Jean l'évangéliste va avoir dans l'île de Patmos, puisque Dieu lui accorde la révélation de l'Apocalypse des temps de la fin. Et donc dans cette vision, qu'est-ce qu'il voit? À partir du verset 9, il dit, et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. C'est lui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Donc, les anges sont nos compagnons de service. Et c'est pourquoi dans ce message, je montrerai aussi l'aspect du fait que quand Dieu nous appelle à un service, Dieu met à notre disposition des compagnons de service qui sont des anges. Tu peux être appelé à l'accueil, tu peux être appelé au nettoyage, tu peux être appelé à un ministère de prédicateur, ou encore quel que soit le ministère auquel, le service que Dieu t'appelle à faire, Dieu met à ta disposition des compagnons de service. C'est pourquoi quand Jésus est venu sur la terre, il n'est pas venu seul comme je disais, il est venu avec des compagnons de service. Et quand il a marché sur la terre, il a exercé son ministère avec des compagnons de service qui étaient à sa disposition et qui exécutaient en faveur de Jésus, de son ministère, la volonté de Dieu sur sa vie et son ministère. Donc, ne néglige pas le don que Dieu t'a donné, le service que tu fais. Parce que de ton attitude également dépend de l'action des anges. Donc en résumé, en fait, les anges sont là pour faire descendre sur la terre, sur nos vies, tout ce que Dieu a prévu dans le ciel pour nous, et pour nous accompagner dans le service. Et j'aimerais vraiment que tout au long de ce message, nous puissions comprendre que Dieu veut nous amener à prendre conscience que notre conduite, nos comportements, nos façons de parler, notre façon de nous conduire, de nous comporter, nos agissements, notre attitude, en fait, a un impact dans le monde spirituel de Dieu et peut favoriser l'action des anges dans notre vie, dans notre ministère, comme cela peut faire fuir les anges, parce que les anges peuvent être scandalisés. Alléluia. Et donc, il est important que nous puissions prendre conscience que vraiment, notre conduite sur la terre est importante par rapport à ce que l'Hébreu a dit, parce que si nous ne conduisons pas comme Dieu le veut, les anges ne se mettront pas à notre service, et ce n'est pas Dieu qui va descendre du ciel sur la terre pour venir accomplir les prophéties et les promesses qu'il a libérées sur notre vie. Alléluia. Ce qui est sûr, tu as une destinée. Dieu a une destinée pour ta vie. Et comme il a fait avec le peuple d'Israël, il a dit maintenant, voici, je vous donne la terre promise, Canaan, un endroit où coule le lait et le miel. Mais quand nous voyons le peuple de Dieu dans le désert, la Bible déclare que le peuple de Dieu avec Moïse, pour conquérir la terre promise, ils sont passés de guerre en guerre, de bataille en bataille. Ils ont combattu les Amoréens, les Éniciens, les Phéniciens, les Cananéens, jusqu'à la terre promise, les géants, etc. Et tout au long de la vie du peuple de Dieu, on rencontre des batailles, des combats. Et c'est l'image de notre vie personnelle en tant que chrétien, notre marche avec le Seigneur. Nous sommes engagés dans un combat. Et dans notre marche quotidienne, nous avons besoin de prendre conscience que ce n'est pas Dieu qui va décider, qui va descendre sur la terre pour venir le faire à notre place, mais qu'il met à notre disposition des êtres spirituels qu'on appelle des anges qui viennent exercer un ministère en notre faveur. Alléluia! Et que nous avons une conduite, une attitude à tenir vis-à-vis de ces êtres-là pour favoriser leur action dans notre vie et pour favoriser leur mouvement dans l'église. Parce que ce sont des esprits du royaume. Alléluia. Pour agir, les anges ont besoin de deux choses importantes. Les anges ont besoin de notre conduite et ils ont besoin d'une atmosphère. Donc, lorsqu'ils ne trouvent pas une conduite qui correspond au principe de la justice du royaume de Dieu et qui leur donne le droit d'agir, ils n'agiront pas. Et même quand les principes sont là, s'ils ne trouvent pas l'atmosphère favorable, l'environnement favorable pour le faire, ils n'agiront pas. Voilà pourquoi les anges travaillent toujours dans l'atmosphère, dans le cadre de l'environnement du royaume de Dieu. Quand on sort du royaume de Dieu, eh bien, les anges ne travaillent plus. D'où il est important que nous puissions comprendre que nous avons cette mission, cette responsabilité de créer autour de nous un environnement, une atmosphère favorable à l'action des anges dans notre vie. Alléluia. Et les anges travaillent avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit aussi ne comprend pas pourquoi nous péchons. Je parle du Saint-Esprit dans la dimension de l'onction. Parce que l'Esprit de Dieu, dans la dimension de l'onction, est comparé à une colombe. Et la colombe est un oiseau. Lorsqu'il se pose sur la branche d'un arbre, le moindre mouvement, sa sensibilité fait de telle sorte que le moindre mouvement, il s'envole. Donc, il y a une coopération entre le mouvement des anges et le mouvement du Saint-Esprit dans nos vies et dans notre ministère. Alléluia. Et ces esprits-là, ce sont les esprits du royaume de Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit à Nicodème, il dit, si tu n'es né de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Et il ajoute encore, si tu es né de nouveau, c'est bien. Mais si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Que ceux qui ont les oreilles entendre saisissent le message que Dieu libère. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, nous allons voir dans la parole de Dieu maintenant qu'est-ce que nous devons faire pour que les anges puissent se mettre en mouvement. Quels sont les actes, les comportements que nous pouvons poser pour mettre les anges en mouvement, pour déclencher le mouvement des anges de Dieu? Quelle atmosphère nous pouvons créer pour favoriser le mouvement des anges dans notre vie? Premièrement, je vais vous dire que les anges sont des êtres qui nous observent. Donc, ils sont observateurs. Ils sont observateurs et rapporteurs de tout ce que nous faisons sur la terre à Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu n'a pas besoin. C'est vrai que la Bible déclare que Dieu parcourt la terre, ok? Et toutes les nations, la terre appartient à l'Éternel. Donc il sait tout ce qui se passe. Il est omniprésent, il est omniscient, etc. Mais les bras de l'Éternel, ce sont des anges. Les pieds de Dieu, ce sont les anges. Les oreilles de Dieu, ce sont les anges. La bouche de Dieu, parfois, ce sont les anges qui viennent parler à la place de Dieu. Alléluia. Donc ces êtres-là nous environnent et ils nous observent. Et nous allons lire dans le livre de Genèse, chapitre 18, versets 20 à 21. C'est le peuple de Sodome et Gomorre. Regardez ce qui va se passer dans Genèse chapitre 18, versets 20 à 21. Genèse 18, versets 20 à 21. Le peuple de Sodome et Gomorre s'était livré à l'iniquité, au péché, à un point où vraiment ils ont dépassé le seuil de tolérance de Dieu. Ils se sont livrés à des pratiques contre nature. On trouvait dans ces villes l'homosexualité, la prostitution, le péché vraiment sous toutes ses formes, au point que même les fils de Dieu prenaient des fils des hommes et avaient des rapports sexuels avec eux. Et le bruit parvint à l'Éternel dans le ciel. Et nous lisons donc du verset 20 au verset 21, Genèse chapitre 18. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorre s'est accru. Et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. La question que je vous pose, Dieu, qui est omniscient, qui est omniprésent, dit, je descends sur la terre moi-même pour m'assurer si le bruit qui est parvenu jusqu'à moi est réellement ce qu'on m'a dit. Ce bruit-là, qui l'a rapporté? Ce sont les anges. Alléluia! Non, il y a les anges qui sont placés à la porte de chaque nation, à la porte de chaque ville, à la porte de chaque vie, à la porte de chaque maison, de chaque foyer, et qui sont là pour observer ce que nous faisons, nos agissements, nos comportements, nos attitudes. Alléluia! Et qui rapportent jour et nuit à Dieu dans le ciel. Ce sont les anges rapporteurs. Et donc, nous sommes environnés de ces six grands nuées de témoins dont nous ne sommes pas conscients, mais qui sont là, qui nous observent. C'est pour cela que vous pouvez imaginer que lorsque vous êtes seul dans un endroit, vous commettez un péché que personne n'a vu, etc. Vous dites, oh, vous avez la conscience tranquille, personne ne vous a vu. Détrompez-vous, Dieu vous a vu. L'ange rapporteur t'a observé et il va rapporter. Alléluia. Il va rapporter. Et ce sont ces anges-là que Dieu appelle les anges du jugement, parce que ce sont eux qui écrivent tout ce que nous faisons dans un livre. Et il rapporte. Et c'est ce livre-là qui va être ouvert le jour du jugement. On va dire, tu as fait ça. Oh Seigneur, mais il n'y avait personne. Mais si. Alléluia. Et ces anges ont des caméras. Ils filment tous nos comportements, tous nos actes, tous nos comportements, tous nos agissements. Tout ce que nous faisons sur la terre est filmé. Et le jour du jugement, ils vont passer devant nous le film de notre vie. Ce sont les anges observateurs qui rapportent. Et c'est pourquoi il y a certaines personnes, ils ne comprennent pas. Il a fait quelque chose dans le secret, personne ne connaît, personne n'a vu avec lui, seul à Dieu, que c'est scellé, que d'accord. Mais il est surpris que cette chose-là, un jour à l'autre, même 15 ans après, paraisse au grand jour. Mais qui a dit? Mais c'est pas possible, moi, j'étais sûr que. Je me suis rassuré qu'il n'y avait personne, mais qui a dit? La Bible déclare que les ténèbres ne régneront pas toujours. Alléluia. Et que Dieu voit une fourmi noire dans un monde noir, sur un caillou noir. Dieu voit. Même si cette fourmi-là est habillée en noir, c'est-à-dire qu'elle-même elle est noire, elle est habillée en noir, elle va dans un monde noir, ténébreux, elle se met dans une situation ténébreuse, sur un caillou noir, elle fait des choses noires. Dieu voit. Parce que ce sont les anges de lumière, ils éclairent dans les ténèbres. Et ils voient ce que nous faisons. Donc, les anges aiment la sainteté et ils sont attirés par la sainteté. Alléluia. Il ne pardonnera pas vos péchés parce que mon nom est en lui. Le nom de Dieu très saint. Ils sont attirés par la sainteté. À chaque atmosphère où il y a l'odeur de la sainteté, les anges de Dieu viennent. Ils aiment ça. Ils sont attirés par la sainteté. Lorsque on adore le Seigneur,